y a une nouvelle étude qui a été publiée vendredi par 5 chercheurs québécois qui nous démontrent que c'est, on va le dire, pas mal plus difficile pour un enfant, un adolescent, jeune adulte qui passe par la DPJ. Plus compliqué pour le diplôme secondaire, pour la formation et pour se trouver un nouvel emploi. Est-ce que c'est si surprenant que ça, ces résultats-là, quand on sait que c'est pas toujours un parcours très évident pour un jeune de passer par la DPJ? On va en jaser, entre autres, de ce sujet-là et autres sujets aussi avec Nancy Audette, qui est écrivaine, conférencière et ex-enfant aussi de la DPJ. Elle est au bout du fil. Madame Audette, bon matin.
Bon matin.
Merci d'être avec nous encore une fois ce matin. C'est très apprécié.
Ça me fait plaisir. C'est important.
Madame Audette, est-ce que vous êtes surprise des résultats de cette étude-là qui a été publiée vendredi, qui nous prouve là, que c'est pas mal plus compliqué pour le diplôme, la formation et se trouver un emploi pour un enfant qui passe par la DPJ?
Non, pas surprise du tout, parce que les gens qui travaillent sur le terrain, ça fait des années et des années qu'ils sonnent l'alarme, parce que les jeunes qu'on voit dans les refuges, dans les auberges du cœur, par exemple, ceux qui travaillent dans les organismes communautaires nous disent que leur clientèle s'est composée souvent à 75-80% d'ex-placés de la DPJ. On les retrouve en situation de grande précarité. Ce qu'on n'avait pas, c'était des chiffres concrets. Et je tiens à remercier le chercheur Martin Goyette qui en a fait une mission au travail tellement fort. Vous savez, c'est pas facile de suivre des cohortes, hein, d'ex-placés, des jeunes qui vivent de l'instabilité constamment, qui sont souvent à la rue, d'essayer de les rejoindre et tout. C'est encore plus complexe, vous comprenez, de compiler des données claires. Donc, il le fait avec beaucoup de professionnalisme avec son équipe. Et ça, c'est important parce que maintenant, on a des chiffres. On est capable de s'asseoir puis dire au gouvernement, voilà, c'est ça la situation, c'est comptabilisé. On leur a parlé et là, il faut mettre en place des politiques et je vous dirais que c'est urgent de le faire parce que ça s'est grandement détérioré dans les dernières années et je pense qu'on va avoir des problèmes importants. Mais ce que je vois derrière ça, c'est aussi beaucoup de souffrance humaine et ça devrait nous inquiéter grandement de voir que nos enfants, parce que nos enfants, ces jeunes-là, ben se retrouvent trop souvent à la rue, se retrouvent sans diplôme et se retrouvent sans travail.
Qu'est-ce qui manque dans notre façon d'enseigner présentement à ces enfants qui ont un cheminement particulier au niveau scolaire?
Il manque beaucoup de choses. Déjà, de bien les encadrer. Il faut savoir que chez ces jeunes-là, il y a beaucoup de déplacements. En un enfant, c'est pas rare qu'il va faire 6, 7, 8, 9 milieux de vie. Il va partir en famille d'accueil, en foyer, retourner à la maison. Et chaque fois, c'est une coupure au niveau scolaire. Chaque fois, c'est 3 semaines à 1 mois. Où il va manquer de l'école, où les informations ne vont pas suivre d'un milieu à l'autre. Il va rentrer dans une école, il n'y a aucune information qui est transmise à la nouvelle direction, aux gens qui sont chargés de l'aider. Donc, il se retrouve rapidement en grande difficulté scolaire et ça, il faut que ça cesse. Pauvre enfant, j'essaie de me mettre dans ses souliers, je me dis à chaque fois, ça doit tellement être difficile. Pour ceux qui sont en centre jeunesse, en centre de réadaptation, où les écoles sont à l'intérieur des bâtiments, ce que j'entends, c'est alarmant. On me parle de gens qui ne sont pas formés pour enseigner à ces jeunes-là, qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas comment les encadrer, des enseignants qui veulent bien faire, mais qui sont laissés à eux-mêmes. Et au lieu de s'améliorer, ben l'enfant se détériore. On est encore trop dans la répression, dans le contrôle, et pas assez dans l'accompagnement, dans tout ce qui est thérapeutique pour ces enfants qui ont vécu. Je le rappelle à chaque fois parce que j'ai l'impression qu'on comprend pas, mais ce sont des enfants qui ont des traumas complexes, ce sont des enfants qui ont subi de la maltraitance, hein, de la violence corporelle, de la négligence grave, parfois des agressions sexuelles. Il y en a eu 3000 juste l'année dernière, des enfants qui ont subi des agressions sexuelles. Donc, c'est des enfants qui sont en état d'hypervigilance tout le temps. Et quand on les met dans une classe, là, tu sais, leur cerveau n'est pas apte à l'apprentissage parce que eux, depuis des années, ils sont en état d'hypervigilance. Ils savent jamais quand ils vont rentrer à la maison le soir ce qui va leur arriver. Ouais. Est-ce que je vais avoir des coups? Est-ce que ma mère va recevoir des coups? Est-ce qu'on va manger ce soir? Est-ce que je vais rentrer à la maison? Mon père va encore être sous, par exemple, et il va pas être là pour s'occuper de nous. C'est donc de pouvoir mettre l'enfant en sécurité, qu'il comprenne que maintenant, il peut se donner la chance hein, d'être dans une classe et d'apprendre. Son cerveau doit être libéré, doit être disponible à l'apprentissage. Et ça, ça prend beaucoup d'encadrement, beaucoup d'amour, beaucoup de respect et de bienveillance envers l'enfant qu'on trouve pas actuellement dans le système pour ces enfants. Donc, on les met en position d'échec. Et là, vous savez, un enfant, quand il va d'échec en échec en échec, qu'est-ce qui arrive? Ben, il n'y a plus aucune confiance en lui. Et il a l'impression qu'il est un pas bon. Et à chaque fois qu'on va lui dire, veux-tu aller à l'école? Veux-tu suivre un cours professionnel, apprendre un métier? Non, 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 moi, je suis pas capable. On m'a dit toute ma vie que j'étais un pas bon. Ouais. Donc, c'est de rebâtir leur confiance en eux, de leur offrir des programmes sur mesure pour leur permettre de réussir, parce qu'ils sont très nombreux. Vous savez, ça, c'est des citoyens de demain.
Absolument.
Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver à ces enfants-là pour qu'ils puissent avoir une vie épanouie, une vie normale. Ils le méritent, eux aussi.
Oui.
Mais il va falloir qu'on se pose de sérieuses questions parce qu'on peut pas continuer comme ça. On peut pas les laisser à eux-mêmes comme ça.
Ben d'ailleurs, Nancy Audette, c'était justement ma prochaine question. Je veux revenir sur l'encadrement. Là, lorsqu'on voit les résultats de la plus récente étude, clairement, puis pardonnez-moi l'expression, on est à côté de la traque totale de la façon qu'on encadre ces jeunes-là au cours des dernières décennies. Est-ce qu'il y a... Je ne veux pas dire espoir. Est-ce que vous croyez une volonté de ceux et celles qui tirent les ficelles, qui contrôlent ou qui peuvent contrôler le système? Y a-t-il une volonté ou une bonne volonté de vouloir améliorer les choses?
Ben, je n'ai pas senti cette volonté-là dans les dernières années. Il y a des programmes qui existent. Il y a des gens qui ont des expertises. Je pense notamment à l'école Déclic à Montréal, qui honnêtement est extraordinaire pour ces jeunes-là. J'aimerais que ça fasse des petits... On en a parlé souvent au ministre. C'est ce qu'ils ont bâti, c'est vraiment sur mesure par rapport à tout ce que je viens de vous dire. C'est bâti sur mesure pour eux et c'est sous-financé. On démontre pas d'intérêt. On dirait parfois quand les solutions viennent de l'extérieur, c'est comme si automatiquement c'est pas bon. Hein, faut que ça vienne de l'intérieur, du ministère même. Mais on a des gens qui sont vraiment qui connaissent cette jeunesse-là, qui savent quoi faire. Mon doux, qu'on peut-tu les écouter? On peut-tu aller les voir, s'asseoir avec eux, qu'ils puissent partager leur savoir, puis voir à partir de là, qu'est-ce qu'on peut bâtir ensemble pour ces jeunes-là? Sinon, le seul espoir que j'ai en ce moment, puis je trouve ça épouvantable de dire ça, c'est que je vois quand même que les gens commencent à être sensibilisés. Je sens que tranquillement, pas vite, on arrive à porter la voix de ces jeunes-là. Et il y a des initiatives dans la communauté. Je vois des fondations qui offrent de plus en plus de bourses d'études, qui vont offrir du tutorat. Et ça, je tiens à remercier ces gens-là qui ont envie d'aller faire la différence parce qu'en ce moment, c'est pas mal le seul espoir que j'ai. Mm-hmm. C'est de voir ces fondations-là venir en renfort dans la communauté puis des organismes communautaires qui travaillent, qui tiennent... Avec de la broche, comme on dit. C'est des gens qui tiennent ça à bout de bras, puis une chance qu'ils sont là. Puis il faut qu'on continue à appuyer les initiatives dans nos communautés, parce que c'est ça qui fait qu'on aide une petite minorité en ce moment, mais pour aller aider, parce qu'ils sont nombreux, malheureusement. Là, vous le savez, là, il y a 2000 jeunes qui quittent le système d'ADPJ chaque année au Québec, puis là-dessus, il y en a environ 600 qui se retrouvent à la rue. Ouais. C'est énorme. C'est chaque année, puis à un moment donné, vous savez, ça s'accumule, là. 18, 19, 20, 21, 22, puis c'est comme si à un moment donné, on les échappe, on a de la misère à les ramener. Plus on prend du temps avant de les accompagner, de les ramener parmi nous, hein, dans la communauté, mais après ça, c'est très difficile de les ramener.
Et certainement un gros chapeau à ceux et celles, puisqu'il y a des textos qui rentrent en ce moment, Mme Audette, par rapport à certains endroits, je pense entre autres, là, le Centre jeunesse de Lévis, il y a quelqu'un qui nous écrit et que c'est une équipe passionnée là, qui travaille très, très fort avec nos jeunes dans ce secteur-là. Donc, comme vous le mentionnez, le chapeau, et c'est là qu'on peut peut-être avoir un minimum d'espoir pour ceux et celles qui travaillent très, très fort puis qui encadrent nos jeunes.
Oui, vraiment, puis je veux le dire, je laisse j'ai beaucoup de de compassion envers les intervenants, les éducateurs qui travaillent très, très fort en ce moment dans des conditions difficiles. On ne leur donne pas toujours la chance d'aider comme ils aimeraient aider, comme ils voudraient aider. Ils sont dans un système très imparfait. Pas beaucoup de formation pour les recrues qui rentrent, souvent qui sortent de l'université, et on les envoie travailler avec une clientèle qui a besoin de soins spécialisés. C'est vraiment difficile. Chapeau. Mais je le dis souvent, tu sais, il y a eu un exode là, d'intervenants, d'éducateurs dans les dernières années, énormément de démissions de gens qui avaient des formations, qui étaient outillés pour aider ces enfants-là, qui, à bout, plus capables, mais ils me disent, Nancy, je suis en mode survie. Pour survivre, je suis obligée de m'en aller. Puis d'aller dans un autre milieu où c'est moins difficile. Mais ce que je dis, c'est si le système brise autant d'adultes bienveillants, imaginez à quel point il brise les enfants.
Mm-hmm. Absolument.
C'est juste ça que je veux dire. Ouais. Je suis contente qu'on puisse sensibiliser davantage les gens à leur réalité. C'est important qu'on comprenne ce qui se passe et ce qu'ils vivent, ces enfants.
Et justement, Nancy, parlant du système, il y a le ministre Carman qui a mis sur la glace présentement le processus pour doter le Québec d'un commissaire à l'enfance. Comment tu réagis face à ça? Parce que c'est une autre preuve, selon moi, que le système ne prend pas bien, bien soin des enfants qui sont issus de la DPJ.
Mais on attendait ce projet de loi depuis 2 ans. C'était la recommandation phare du rapport Laurent. Comme ça, Laurent, qui a été mise en place à la suite du décès de la fillette de Grimby, pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans le système de la DPJ. Après avoir rencontré 4000 personnes, là, la recommandation phare en haut, là, ça fait 3 ans, là, c'était d'avoir un commissaire au bien-être et aux droits des enfants.
Ouais, puis qu'est-ce qui explique ce laxisme-là? Parce que tu le dis bien, ça fait 3 ans. Hein?
Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Puis pas juste ça. Vous savez, quand ça va être mis en place, là, ce commissaire-là, ça va prendre encore 2 à 3 ans avant de pouvoir être fonctionnel.
Ouais.
Peut-être même plus que ça, peut-être même 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait en attendant avec un système qui est en train de s'effondrer? Les messages que je reçois chaque semaine, vous n'avez pas idée. Mais ce qui m'inquiète, c'est que dans la recommandation phare, il était clair, là, c'était en haut qu'il fallait faire un transfert des pouvoirs de la Commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse, tous les pouvoirs au commissaire pour lui permettre d'aller aider les enfants vulnérables. Le ministre refuse de faire ça. Je ne comprends pas pourquoi, parce que ça, c'est important. Il faut lui donner un peu de dents à ce commissaire-là pour qu'il puisse aller aider, pour qu'il puisse, vous comprenez, pour qu'on puisse avoir un vrai chien de garde. Mm-hmm. Et le ministre refuse, il est catégorique, il ne veut pas respecter la première recommandation du rapport Laurent. Mais je me dis, pourquoi les Québécois ont payé 12 millions de dollars pour une commission?
Bien, c'est ça. Puis pourquoi,
des commissaires qui ont travaillé tellement fort pour arriver avec des recommandations, si on ne les suit même pas.
Oui, puis rappelons-le, cette commission-là fait suite à une tragédie à Grimby, une tragédie qui aurait pu être évitable. Nancy, j'ai une autre question également pour toi. Moi, j'ai travaillé longtemps sur le terrain, dans le communautaire, puis j'ai toujours remarqué qu'à 18 ans, ces enfants-là perdent toutes leurs ressources. Les affaires dans un sac à vidange, puis à voix, on essaye de se trouver un appartement. Puis là, ça fait en sorte que le tiers des enfants issus de la DPJ sont sur l'assistance sociale. Faut vraiment faire mieux avec les jeunes quand ils arrivent à 18 ans. C'est pas vrai qu'ils sont autonomes et qu'ils sont capables de se débrouiller.
C'est gênant.
Ouais.
C'est gênant. Je peux pas croire qu'on leur fait ça. Moi, j'ai accompagné une jeune adolescente qu'elle a passé sa vie dans le système. Elle a vécu plus d'épreuves dans sa vie que toutes les personnes que je connais réunies. Vous avez pas aidé ce qu'elle a vécu, cet enfant-là. Il faut que je fasse attention quand je parle d'elle, j'ai envie de pleurer, OK? Parce que je la trouve tellement courageuse. Puis elle a passé sa vie en centre jeunesse. Puis à 17 ans, il a dit, là, tu sors, tu t'en vas en foyer de groupe parce qu'il faut qu'on te prépare, entre guillemets, à ta vie adulte.
Ouais, mais
on l'a mis dans un fond d'un faux appartement, dans un fond de sous-sol. C'était triste à mort, là, à mort. Elle n'avait jamais cuisiné de sa vie. On l'a zéro préparé. La journée de ses 18 ans, je lui avais préparé une fête avec tous les gens qu'elle connaissait, des amis, des anciens éducateurs. J'étais tellement excitée, j'allais préparer le restaurant pour décorer. Elle m'a appelée en panique l'après-midi pour me dire, Nancy, faut que tu viennes me chercher. J'ai dit, quoi? Ben oui, je vais venir te chercher ce soir. Tu sais que j'ai organisé quelque chose. Elle m'a dit non. Ils me mettent à la porte.
Voyons.
J'ai dit, voyons, c'est ta fête aujourd'hui. Tu as 18 ans. Moi, j'ai imaginé qu'elle allait nous laisser un peu de temps.
Ouais.
Non. Écoute, elle pleurait. Il faut que tu viennes me chercher maintenant, Nancy. Donc, j'ai envoyé des amis décorer le restaurant, préparer. Je suis partie en panique la chercher. On a vidé sa chambre. On a tout mis dans des sacs vidanges. Puis personne n'est venu nous voir. Personne n'est venu lui dire au revoir. Personne n'est venu nous aider. On a tout rempli mon auto de sacs de vidange. Puis j'ai pris une photo pour toujours me rappeler que la prochaine fois qu'on va me dire que c'est pas vrai, quand je raconte qu'on les fait sortir avec leur affaire dans des sacs poubelles, leur montrer que oui, c'est vrai. Parce que même si Nancy Audet, qui est journaliste, qui était marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ, accompagnait cet enfant-là depuis des années, on l'a mis à la porte la journée de sa fête avec des sacs poubelles. On avait même, tu sais, je veux dire, c'est épouvantable de faire vivre ça à ces enfants-là. Puis cette belle jeune femme-là n'est pas la seule. Heureusement, on a réussi à lui trouver un appartement, un lieu sécuritaire. Mais j'ose pas imaginer tous les jeunes qui n'en ont pas, ils n'ont pas de personne pour aller les chercher. Les gens qui les accueillent, ils me disent, on leur demande, as-tu un numéro d'urgence si t'arrives quelque chose, si tu tombes malade, si t'as... Les jeunes, ils sont là, non, j'ai aucun numéro de téléphone. Ils n'ont même pas un seul numéro de téléphone dans la poche. Honnêtement, il faut que ça cesse.
Absolument.
Il faut qu'on prenne soin de nos enfants. On ne peut pas continuer comme ça.
Cette histoire-là, Nancy, est d'une tristesse incroyable. Nancy Audet est journaliste, écrivaine, conférencière. C'est-tu ex-enfant de la DPJ, donc elle connaît absolument la réalité de ces jeunes-là. Nancy, merci beaucoup pour ton temps et la discussion ce matin.
Merci à vous. Merci. À bientôt.
À bientôt, à la prochaine. Tellement puissant de jaser avec Nancy Audet par rapport à la réalité de ces jeunes-là qui passent par la DPJ.
Hey, c'est-tu à briser le cœur? C'est le jour de ta fête, t'es censé être festif. Puis on te dit, sac ton camp, mets tes affaires dans des sacs à vidange. Ouais. Bonne fête.
Bonne fête. Bonne continuité.
Bonne continuité bonne dans chance. Vie. Imagine. Bonne chance.
C'est ça, les trois. Bonne fête
et
bonne chance.
L'assistance sociale t'attend, puis les banques alimentaires.
Ouais.
Mais c'est pas grave, ça va bien aller.
Et je le disais tantôt, puis il y a des textos qui rentrent aussi à ce niveau-là. Le chapeau à ceux et celles qui travaillent très, très fort et avec grand cœur pour les jeunes qui passent par la DPJ.
Ouais.
Courte pause à Rage Against le matin. Connaissez-vous le terme hypothèque islamique?
Hein?
Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Pourquoi on en parle autant depuis vendredi? On jase de tout ça avec le vulgarisateur d'actualité, l'extraordinaire Fernel Morissette.